des livres plein les oreilles. Émission toute spéciale aujourd'hui. Vous savez comment j'aime les mots, vous savez comment j'aime la lecture, vous savez comment j'aime l'écriture, comment j'aime évidemment les livres, et je pense que nous partageons, vous et moi, cette passion. Et quand je dis vous et moi, je devrais dire vous et nous, avec tous ces invités qui viennent à chaque semaine en studio ou encore qui sont à l'autre bout du fil. Aujourd'hui, je suis vraiment gâtée, j'ai 4 invités différents. Oh, waouh! Alors, je vais commencer par Gaston Loubier, que vous connaissez bien, un habitué qui va venir nous parler d'un livre jeunesse, parce que tout va tourner autour beaucoup de la littérature jeunesse. Nous aurons également Yves Nadon, que j'aurai la chance de vous présenter un petit peu plus tard, enseignant, spécialiste. Lui, c'est pareil, hein, les mots pour les jeunes, il en mange. Marie Lalande, que vous écoutez bien. Yves et Marie sont déjà en studio. Marie, qui est collaboratrice bénévole à l'émission Les Voix de Service, qui nous arrive toujours avec un paquet d'articles de trouvailles sur l'enseignement, sur l'éducation, de la lecture notamment. Et puis, oh, on retrouve l'inénarrable Gérard Saint-Denis en seconde partie. Et Gérard, je lui ai demandé de nous présenter quelques livres jeunesse. C'est bien normal, quand je vous dis, tout tourne autour de cela aujourd'hui. Sinon, bien, il y aura la bande-annonce pour la semaine prochaine, alors que je vais accueillir l'équipe de la toute première librairie féministe à Montréal, le Gaillon, et puis la chronique de Gérard, je vous l'ai déjà dit. On finira par quelques titres en rafale. Bref, soyez les bienvenus à l'émission des livres plein les oreilles. Bonjour, bonjour mon Gaston.
Bonjour, chère Claudine.
Comment ça va?
Ah, ça va très bien. Je suis en parfaite santé parce que mon cœur se débat très fort.
Oui.
Ouais, parce que c'est l'émotion, là, c'est
oui.
La crainte.
Ah oui, l'émotion de nous parler une nouvelle fois d'un livre, mais vous faites
voilà.
Oh, vous faites ça tellement bien, Gaston.
Non.
Oui. Non, je suis pas inquiète. Et je voudrais d'abord vous présenter Yves Nadon, qui est déjà en studio. Yves, qui adore, qui travaille en littérature jeunesse, qui vient d'ailleurs d'ouvrir une maison d'édition dont le nom est
Deux.
Yves. Deux maisons d'édition?
Non, une maison d'édition qui se nomme Deux. D'EX.
Bonjour la confusion. Et puis Marie Lalande aussi, que j'imagine que vous connaissez bien, Gaston, parce que vous êtes un fidèle de Canal M.
Oui. Bonjour.
Et je voudrais, s'il vous plaît, Gaston, que vous racontiez à tous les auditeurs, à Marie et à Yves, cette histoire que vous m'avez racontée il y a quelques semaines et qui a fait que je vous ai invité, quoi.
Oui, ben c'est assez drôle parce que moi, je m'inspire toujours des livres que vous nous suggérez. Je les écoute, puis je dis « Ah, c'est bon, je vais lire ça ». Mais là, je peux pas en parler d'autres. Ça a déjà été raconté par les auteurs même, les lecteurs. Là, j'étais coincé. Je dis « La seule chose que j'ai lue, c'est un livre pour les jeunes de secondaire 3 ». Je sais pas, tu sais. Ben là, c'est là que vous avez dit. Ben là, on a des spécialistes, des gens qui sont dans le livre « Jeunesse ». Ah, ben c'est bon.
C'est ça.
Parce que je me suis présenté chez mon fils, puis mon petit-fils, qui est en secondaire 3, à un moment donné, il y avait sur la table un volume qui s'appelait « Le soldat peaceful ».
OK.
Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, c'est mon travail, il faut que je lis ce livre-là, ce mois-ci. Ah oui? Alors là, rapidement, revenu chez moi, j'ai allé consulter le SQLA, et effectivement, il était disponible. Ah, j'ai dit, tiens, je vais le lire, puis après, je vais lui jouer indirectement un tour, me lui demander des nouvelles de tel personnage, de tel autre personnage. Et puis, en plus de ça, j'ai dit, ça va lui montrer que je suis intéressé, ça va le stimuler à faire d'autres lectures à ce moment-là. Alors, j'ai lu le livre, puis effectivement, là, après, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, puis, comment va Tomo? Fait qu'il dit, Tomo, ben, j'ai dit, le frère de Charlie, là. Ben, comment ça, le frère? Ben, j'ai dit, t'as pas lu ça, toi, avec Big Joe, là, puis tout. Ouais, comment ça se fait que c'est ça, grand-papa, tu sais? Ben, j'ai dit, je l'ai lu, tu sais, puis on en a parlé un tout petit peu, puis j'ai dit, as-tu aimé ça? Ah, il dit, oui, j'ai bien aimé ça. Moi, je l'avais fait pour effectivement connaître l'histoire, pour lui en parler. Mm-hmm. Et aussi pour voir quel genre de livre on faisait lire aux jeunes de 15 ans. Mm-hmm. Parce que moi, dans mon temps, c'était 20 000 lieues sous les mers, Les Trois Mousquetaires.
Ben, c'est pas mal non plus, hein, dans le genre.
Non, exact. Bon, alors là, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait lire aux jeunes, tu sais, de secondaire 3?
Oui.
Alors, c'était dans cet esprit-là que je voulais le lire aussi.
Alors, et quelle est votre opinion par rapport à ce livre-là? Que d'ailleurs, comme on n'est pas à la télé, vous n'avez pas vu, mais la réaction de Marie Lalande et d'Yves Nadon a été la même. Oh oui, quand vous avez dit Soldat Peaceful, on a fait, oh ben oui.
Oui, j'ai presque fait une petite danse.
Oui.
Oui. Ah oui?
Ah oui, 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 littéralement, une stepette.
J'ai tellement aimé ce livre.
Ah oui, moi, c'est un auteur, je ne connaissais pas du tout. C'est un anglais.
Oui, Michael Morpurgo.
Voilà. Moi, je l'ai lu en rafale. Puis quand Claudine m'avait proposé de parler de ce livre-là, j'ai un instant, parce que quand j'y ai parlé à mon petit-fils, j'ai demandé, veux-tu m'expliquer quelque chose? J'ai dit, au début de chaque chapitre, il nous dit, chapitre 1, 10h moins 10.
Oui.
Chapitre 2, 10h et 24. Chapitre 3, minuit et quart. Et à chacun des chapitres, il y a une heure d'indiquer comme ça. Là, il ne savait pas. C'est comme ça. Et dès que vous m'avez suggéré de parler de ce livre-là, je dis, il faut que je le ramène dans ma mémoire vive, là, lui, ce livre-là. Alors, j'ai relu le livre. Puis là, la deuxième lecture, là, j'ai compris.
c'est drôle, hein, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre-là. Est-ce que ça se raconte? Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi?
On le découvre, mais à la dernière page.
C'est ça, hein?
Pourquoi? Oui. Moi, je pensais, je dis, tu le lecteur? Je suis rendu à telle heure. Ça n'avait pas de sens, là. Tu sais? J'ai dit, pourquoi est-ce qu'il nous donne une heure comme ça tout le long à chacun des chapitres? On ne le dit pas, arrêtez à l'écouter correctement. Puis je dis, là, je comprends pourquoi ça peut être pour les jeunes. Parce que, premièrement, il y a un peu de tout. Il y a de l'aventure.
Mm-hmm.
Il y a aussi de l'émotion. D'ailleurs, il me disait que les personnages étaient attachants. C'est vrai, je n'avais pas remarqué ça, mais c'est vrai que les personnages sont très attachants, parce que c'est trois jeunes, hein, 14, 15 et 17 ans, puis il y a une jeune fille dans ça, puis c'est les premiers amours, et tout ça, fait que... J'ai dit, qu'est-ce que tu te souviens de ce volume-là? Il me dit, moi, ce que je me souviens, c'est la guerre.
Ouais.
C'était vraiment pas drôle de se battre dans des tranchées comme ça. Il fallait être courageux. C'est la guerre qui l'a impressionné davantage. Je dis, dans ce temps-là, c'était de tranchée en tranchée qu'on se battait. Aujourd'hui, c'est au bout des pouces, une fusée ou encore une ceinture d'explosifs. Ça change. On est toujours en guerre. Puis là, je constatais que nous sommes en 2016. Ça fait 100 ans, ça, la guerre de 14.
Mais oui, exactement.
On est en pleine guerre.
On est en plein dedans, absolument.
100 ans plus tard.
Exactement.
J'ai trouvé ce livre-là, en fin de compte, à la deuxième lecture. Très intéressant. Je ne sais pas si c'est parce que là, je suis retourné en enfance pour le lire. Le premier, je le lisais pour savoir ce que c'était, pour en parler un peu. Mais là, à la deuxième lecture, j'ai beaucoup aimé.
Est-ce que je peux me permettre, est-ce qu'on a le temps, mon petit Jean-Sébastien? Il nous reste combien de temps à peu près? Oui, oh là là. Est-ce que je peux me permettre, j'ai un très très court extrait ici de ce livre dont nous parlons, Soldat Peaceful, et j'ai oublié la mauvaise fille que je suis de noter. Ah voilà, Michael Morpurgo. Voilà, pour les gens qui nous écoutent, je voudrais l'épeler, c'est Morpurgo. Oh, et puis, Michael comme Michael ou Michael, bien sûr. Alors, c'est un petit extrait de ce livre qui dit ceci. Je me retrouve par terre, roulé en boule, hurlant pour que ça s'arrête. Puis je sens que Charlie s'allonge à mes côtés et se serre contre moi pour me protéger, pour me réconforter. Il commence à chanter « Orange et citron » doucement à mon oreille. Et je me mets à chanter avec lui d'une voix forte. Je chante au lieu de crier. Et bientôt, dans l'abri, tous chantent avec nous. Mais le déluge de feu continue encore. Et à la fin, ni Charlie, ni Orange et Citron ne parviennent plus à endiguer la terreur qui m'envahit. qui m'engloutit, détruisant la dernière lueur de courage et de sang-froid qui aurait pu me rester.
Ouais.
Et alors là, il y a cette très très courte phrase, il dit « Je n'ai plus que ma peur
». Ouais. Mm-hmm. Ça dit beaucoup parce que là, c'est, quand on ne connaît pas le roman, mais on voit là, que ça dépeint les vraies couleurs de ce roman-là.
Ouais.
Parce que c'était trois frères. Le plus jeune, c'était un retardé, là.
Mm-hmm.
Tu sais, et lui,
un enfant légèrement handicapé.
Oui, handicapé, voilà, intellectuellement.
Mm-hmm.
Et il riait tout le temps. Et il chantait toujours ça, lui.
Ah, OK.
Le citron, là. Puis
Orange
quand il était
citron,
heureux, il chantait ça.
Ouais.
Or, les frères ont été imprégnés de ça. Ils chantaient cette chanson-là.
Mm-hmm.
Tu sais?
Mm-hmm.
Et c'est touchant. J'aimerais ça en raconter quelques bouts, mais...
Regardez, je pense qu'on va laisser notre monde là-dessus,
parce que je suis
convaincue qu'à nous quatre, là, on leur a donné amplement l'envie, certainement, de se procurer ce bouquin, dont je rappelle le titre, « Soldat Peaceful », en plus, bon, comme « Peaceful », mais...
Oui, comme la paix, avec, là.
Voilà, comme la paix, mais F-U-L après, hein, il n'y a pas de L, donc c'est « Peace ». F-U, et puis Full F-U-L.
Ouais.
Et je rappelle le nom, Michael Morpurgo, comme ça se prononce, et c'était présenté aujourd'hui par Gaston Loubier, que j'embrasse, que je serre fort.
J'avais une chose, par exemple, c'est qu'à la fin,
oui.
le traducteur note qu'il y a eu 290 soldats qui ont été fusillés parce qu'ils ont reculé, ils ne voulaient pas avancer.
Oui, oui,
là, et que même en France, il y en a eu 600 qui ont été fusillés.
Oui,
comme
absolument.
Ça. Mais en France, on les a réhabilités, mais l'Angleterre n'a jamais voulu faire de pardon posthume.
Non, je sais. Effectivement, d'ailleurs, il y a tellement de livres aussi qui racontent ces tristes épisodes. Il faut qu'on vous laisse, Gaston, je m'en excuse, parce que vous savez qu'on est toujours quand même assez minuté, et je veux qu'on ait du temps pour nos prochains invités. Alors, je vous remercie beaucoup.
Puis j'espère que les grands adultes, enfants, vont apprécier.
D'accord. Et bon voyage dans la vieille Europe.
Oui.
Salut.
Au revoir à tout le monde.
Au revoir.
As-tu lu Bonne nuit, Monsieur Tom?
Comment?
As-tu lu Bonne nuit, Monsieur Tom? Avez-vous lu ça, vos maris? Ça y est, c'est parti. Vous avez vu, quand on met des gens qui aiment les livres autour d'un micro comme ça.
De Morpurgo, oui.
Encore sur le thème de la guerre.
Oui,
c'est fort,
mais c'est un thème qui travaille.
Approchez-vous, parce que voyez-vous, quand c'est la petite lumière rouge, ça veut dire qu'on est en monde. Voyez-vous. Non, mais c'est pas grave. Vous n'avez dit aucun gros mot. Non, vraiment, ça a été très bien. Vous avez juste recommandé un autre livre de ce monsieur, Morpurgo. Bonjour à nouveau, Yves Nadon.
Bonjour.
Marie Lalande. Je vais commencer peut-être plus par Yves,
oui,
et puis de toute façon, je vais vous garder avec nous après, si c'est possible. Yves, je vous présente comme un monsieur qui est à la retraite, un vieux monsieur, mais qui n'arrête pas, parce que vous n'arrêtez pas. Alors, vous avez donc créé une maison d'édition, mais qui s'appelle Deux, avec des apostrophes. Parfois, je suis un peu longue. Parfois, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. mais vous êtes aussi un enseignant à la retraite.
Oui. J'aime encore dire enseignant plutôt que retraité,
Voilà, exactement. Ouais. Mais vous, dans votre vie, l'enseignement tient encore beaucoup de place, ne serait-ce que parce que vous donnez des conférences, vous êtes un passionné.
Je continue à travailler avec des enfants puis des enseignants encore. Là.
Alors, qu'est-ce que vous faites exactement?
Je fais en ce moment, soit des conférences sur la lecture et l'écriture. Je travaille avec un groupe d'enseignants. Mais ce que je préfère, c'est travailler avec des enseignants dans des salles de classe avec des élèves. Et là, je fais le terme anglais, c'est du coaching.
Du coaching.
Je prends la classe en main, je montre des pratiques, puis ensuite les anciens les font à leur tour, puis on en parle, puis on fait vraiment... La salle de classe devient un laboratoire, qui est extraordinaire. On a 20 gamins avec qui travailler. Là, puis,
Et quand vous dites des pratiques, ce sont des pratiques de lecture, des pratiques d'écriture.
Lecture et d'écriture, oui.
Parce qu'on a l'impression que les enseignants ne savent pas le faire, alors ça nous prend quelqu'un comme vous pour Je ne sais pas, je pose la question.
Je me sentirais très méchant de dire que les enseignants ne savent pas quoi faire, mais...
On leur donne peut-être pas tous les outils.
Voilà.
Élégamment.
De un, tous les outils ne sont pas là. De deux, l'université enseigne pas nécessairement des pratiques qui sont vraiment efficaces et gagnantes en ce moment. Puis malgré qu'on soit en 2016, parfois j'ai l'impression d'être dans le temps de Copernic, puis on a découvert des choses extraordinaires dans les 30 dernières années, et ça ne se rend pas aux gamins dans les classes.
Mm-hmm. Comment ça se fait, Yves?
Il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs sociaux, il y a des facteurs de comment on voit la profession enseignante. Est-ce qu'on n'est qu'un technicien qui applique ce que le ministère demande ou nous sommes des professionnels qui devons mettre mm-hmm. en place des pratiques que nous trouvons efficaces? Ça, c'en est un facteur. Les parents qui exigent que peut-être juste que les enfants réussissent leurs études, mais pour le reste, c'est Pennac qui disait ça. Pour le reste, on s'en fout un peu. Mm-hmm. Qu'ils deviennent lecteurs, auteurs, ça ne nous dérange pas. Mais en autant qu'il y a une belle note dans le bulletin, le reste, c'est... comme si la note allait avec ça, puis on sait maintenant que la note ne va pas nécessairement avec... Tu peux réussir tes études comme en ce moment au Québec. Un élève sur deux qui réussit ses études n'est pas lecteur. Mm-hmm. Il sait lire, peut se débrouiller, mais décide en sortant de l'école de ne plus jamais lire pour toute sa vie. Puis ça, c'est des statistiques qui sont pour moi...
Un peu catastrophique, inquiétante.
Qui sont mieux qu'il y a 50 ans, j'imagine, qui sont mieux qu'il y a 100 ans, mais ça reste comment ça se fait qu'un système qui consacre 12 années à la lecture et l'écriture fait en sorte qu'un élève sur deux arrête complètement de lire, puis j'imagine que c'est plus catastrophique pour l'écriture.
D'accord,
hein? Pire que ça. Là.
Et vous savez que dans le milieu des non-voyants, j'ai une fois eu l'occasion de pouvoir approcher un groupe de non-voyants. Ils m'ont vu venir.
Oui. Excusez.
C'était trop drôle, c'était trop facile.
C'était trop facile.
Ben oui, c'était vraiment. Non, je vous en prie. Et il y avait quoi? Peut-être une centaine de personnes, certaines personnes déficientes visuelles, donc avec encore une certaine acuité visuelle, mais légère, et puis d'autres carrément et totalement aveugles. Et je me suis aperçue que le ratio était quasiment le même. Mmh. C'est-à-dire que là-dedans, c'était même pas 50%. Il n'y en avait que le tiers à peu près qui utilisait soit les livres audio, soit les livres en braille. Parce que généralement, c'est l'un ou c'est l'autre. Hein.
Ouais,
bizarrement, il y a parfois des gens qui font les deux, mais souvent, il y en a qui sont plus adeptes des livres en braille. Le problème, c'est que ça prend une place infinie.
Et d'autres, la proportion, tu disais le tiers?
Oui, à peine.
Donc, ça veut dire que les deux tiers de cette population-là ne lisaient pas.
Non,
dans
c'est
les
ça.
Gens que tu as rencontrés.
C'est ça. C'est parce que quand je leur ai demandé s'ils connaissaient l'émission, s'ils connaissaient le service du SQLA, parce que vous savez que ça, c'est un service, c'est le service québécois du livre adapté. Et je me demandais comment ça se fait. Il y a potentiellement 300 000 personnes qui sont en déficience visuelle au Québec. Ces gens-là ont accès absolument gratuitement à tout le catalogue enregistré. Mm-hmm. C'est sûr qu'on s'entend, c'est pas le même catalogue que papier, mais quand même. Bon. Eh bien, il y a, je pense, 10, 12 ou 13 000 personnes seulement qui sont inscrites.
C'est peu.
C'est peu.
Ouais.
Alors,
puis,
bon.
Si on continuait sur cette statistique-là, on regarde la faculté d'éducation qui reçoit de futurs enseignants. Puis, il y a eu beaucoup de débats avec l'ancien ministre. Je ne sais plus lequel. On a eu tellement d'éducation. Un des derniers ministres en éducation disait qu'il voulait augmenter la cote. La cote R pour être accepté.
Ouais.
Mais ça reste que si on regarde une cohorte de 120 étudiants qui sont en enseignement, les mêmes statistiques vont se reproduire. Au moins un sur deux n'aime pas lire.
Bon, alors Yves,
ça c'est troublant.
Yves Nadon,
ça c'est troublant.
Marie Lalande aussi. Marie, je vais vous intégrer à cette discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les gens à lire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour amener les mômes à lire? J'imagine que vous avez une réponse à ça.
Bien, on verra, mais tantôt, vous m'aviez demandé avant de venir s'il y a un livre que j'aimais beaucoup.
Oui.
J'avais dit comme un roman de Daniel Pennac. Je trouvais que Pennac a bien cadré la chose. Il va falloir amener l'amour de la lecture à l'école, qui, elle, n'est pas nécessairement là. Je l'écoutais tantôt, le monsieur, là.
Monsieur Loubier,
qui a fait du beau boulot, puis je trouvais ça extraordinaire qu'il lise le même livre que son petit-fils.
Voilà.
Là, je me disais, quel club de lecture extraordinaire, deux générations. Mais je trouvais que lui, il avait mis le doigt dessus. Son petit-fils avait un livre obligatoire, pas nécessairement aimé. Lui, il avait choisi un livre de façon libre pour le lire avec le petit-fils. C'est ça qu'on doit ramener à l'école, cette liberté-là de choisir les livres, d'être dans des classes de lecteurs et de non-lecteurs, d'être encadré par des enseignants qui sont des lecteurs, qui vont stimuler, pousser, obliger, reculer, questionner et tout. Mais il faut ramener la notion d'amour de la lecture dans la salle de classe et non pas juste on va te montrer à lire puis voici 5 romans obligatoires puis on va te questionner là-dessus. Et enlever de l'école des pratiques qui ne sont pas des pratiques de lecteur. Par exemple, vous et moi, Clotilde, on ne répond pas à des questions quand on lit des livres. On ne fait jamais ça. on comprend le livre, on en jase, on a des conversations. Mais on n'a pas quelqu'un qui va dire, je vais te dire si tu as compris ou si tu n'as pas compris.
Ah, OK, non, bien sûr.
Ça n'existe pas en dehors de l'école. Mais comment est-ce que l'école peut respecter les lecteurs, leur donner les livres au choix de leur lecture, tout en les stimulant? Et ça se fait, je connais des classes, moi, où la moyenne de livres lus... Tiens, je vais revenir à une conversation que j'ai eue avec des enseignants de secondaire. Je leur disais, bien, combien de livres vos mômes lisent? Puis ils me disaient, oh, on en oblige 5, on en oblige 10. Puis celui qui en le faisait lire 10 a eu des « Oh, t'en demandes beaucoup, toi! » Puis, mais moi, je connais des enseignantes très chouettes qui, dans ces classes-là, la moyenne de livres lus, c'est de 40 romans dans les classes.
Wow.
29 étant le minimum et 80 quelque chose étant le maximum. Alors, comment elles font, ces gens, ces filles-là, pour que ces élèves le lisent? Puis, on a posé d'études pour savoir qu'un môme qui lit 29 livres dans l'année est un meilleur lecteur à la fin de l'année que s'il en avait lu juste 5. On a posé d'études là-dessus. C'est clair comme de l'eau de roche que ce livre, cet enfant-là, un, il n'est pas juste meilleur lecteur, il est en train de devenir un lecteur. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'il continue à lire en sortant de l'école. Si on fait juste les faire lire à l'école, puis ensuite ils arrêtent, ça ne donne rien.
Et si on leur pose des questions sans arrêt pour vérifier s'ils ont compris, en fait, c'est parce qu'on touche là. L'aspect de l'évaluation, beaucoup d'enseignants sont inquiets. S'ils posent pas de questions, ils ont l'impression qu'ils savent pas vérifier si l'élève a compris.
Va-t-il vraiment lire?
Est-ce qu'il lit vraiment? Il y a tellement d'autres façons d'aller vérifier si un élève a compris. On va commencer juste par en jaser de ce qui se passe dans le livre.
Comme Gaston, qui a demandé à son petit-fils, bon, puis comment il va, Tomo? Comment il va, Charlie?
Gaston, c'était de la grande pédagogie qu'on a entendue.
C'est tout à fait. C'est simple ça. Ça prend du temps. Il faut s'asseoir avec un enfant, faut s'asseoir avec un petit groupe d'enfants.
Ça prend un enseignant lecteur.
Ça prend un enseignant lecteur.
Et la famille aussi.
Oui.
J'imagine que si on
la famille, moi, comme enseignant, j'ai pas accès à la famille.
Non, ça, je comprends.
Donc, je dois faire fi. Tant mieux si ça fonctionne puis que les parents lisent et tout. Mais moi, je dois dire, ici, maintenant, dans ma classe, je vais te traiter comme un lecteur.
Et,
je vais te donner tous les droits du lecteur.
Et il faut arrêter de croire que la lecture ne se fait que dans le silence. Oui. La lecture, ça se fait avec des discussions. Ça se fait avec des questions qu'on se pose et une interprétation qu'on confronte, une perception. Il faut discuter de ces... Ah, j'ai compris ça. Ah oui, t'as compris ça. Comment ça? Ben regarde, à telle page, il dit telle affaire. Vraiment, j'ai pas vu ça.
Ah, oui.
Tout ça, là, c'est ça qui est magique.
Oui, exactement. Comme des clubs de lecture pour les mômes, quoi. Plutôt que ça devienne un cours de lecture, on va créer un club de lecture.
Puis en bout de piste, ce qu'on sait, c'est qu'on arrête de se servir de la langue pour diminuer les personnes. Ah, toi, tu sais pas lire, toi, tu sais pas écrire, toi, tu fais des erreurs. Mais qu'on serve la langue pour élever les personnes.
Ah,
waouh, ce que tu as lu, ce que tu as dit aujourd'hui.
Et alors là, on parle beaucoup de lecture, il y a aussi l'écriture.
Oui.
Et j'ai entendu une conférence que vous aviez donnée, c'était en 2014, où entre autres, vous nous parliez de gamins qui étaient en première et deuxième année et qui étaient capables, évidemment, avec des fautes, mais là, on parle de la structure de la pensée, finalement, et que vous leur montriez comment on écrit. Qu'est-ce que c'est qu'une introduction, j'imagine? Qu'est-ce que c'est qu'une conclusion? Qu'est-ce que c'est qu'un développement?
Comment décrire?
Voilà, etc. Je vous propose, si vous me le permettez, vu que tout le monde... Non? Bon, alors enlevez votre casque, parce que je vous propose un tout petit bout où vous allez d'ailleurs surtout lire quelque chose qu'a écrit un de vos élèves. Je ne me souviens plus, mais je pense que vous ne le présentez pas, ça commence directement, donc... On va l'écouter.
Un jour, je suis allée prendre l'autobus. Je marchais pour aller à mon arrêt d'autobus. J'entendais des oiseaux. Il y avait un que j'entendais plus. Je me suis arrêtée très doucement. Je me suis approchée très doucement, de plus en plus lentement, en faisant de moins en moins de mouvements. Et tout à coup, vous admirez comment il fait sa chute ici. J'entendais un bruit de bois qui cogne. Je me suis dit, je suis à côté d'une maison qui se construit, mais j'ai tourné la tête et c'était un pic-bois. J'avais le goût de revenir à la maison pour le dire à mes parents. Le pic-bois est monté sur mon bras et dans ma bouche, tous les mots que j'avais le goût de prononcer. 7 ans. Jane Yolen. Il s'est envolé, je me suis dit, quelle belle expérience, mais bon, il ne faut pas que je rate l'autobus. J'ai très hâte de raconter cette belle coïncidence entre un petit garçon et un pic-bois. 7 ans.
Et voilà, 7 ans.
C'est puissant.
C'est puissant.
C'est puissant.
On se fout des fautes, là.
7 ans en début d'année scolaire, pas un 7 ans à la fin de la deuxième année, c'est un 7 ans à l'automne.
Ce môme-là,
un jeune 7 ans,
il va avoir envie de lire aussi.
Ah oui, c'est un lecteur, Marc-Olivier.
C'est un lecteur. cet invité.
Puis, beaucoup de maîtrise et de compétence dans sa lecture. Quand je dis remarquer comment il fait la chute, ou j'ai gauchement dit Jane Yolen, c'est parce qu'il s'est inspiré d'un texte de Jane Yolen pour faire le bout, tous les mots dans la bouche que j'ai envie de dire. Puis, il a fait ce qu'on fait comme auteur, on s'inspire, on trouve que c'est très bien dit chez quelqu'un d'autre, on regarde comment on peut le faire chez soi. Là,
alors, il faut montrer aux enfants, il faut donner aux enfants des modèles et leur lire, leur faire lire et leur dire, regarde comment cet auteur-là s'y prend pour te faire comprendre dans quel paysage il est ou ce qu'il vit ou comment il ressent les choses. Et les enfants voient et découvrent ça et le reproduisent.
Et tout ça dans le respect, comme le lecteur. Tu peux pas être auteur si tu ne décides pas sur quoi tu vas écrire. Le sujet reste le tien. Jamais que j'imposerai un sujet à un élève. Sauf pour une leçon bien précise, temporaire, là, mais le texte vient de Marc-Olivier, qui est très centré sur écrire des histoires vraies de sa vie, puis il apprend comment raconter des moments forts et vrais de sa vie. Mais c'est lui qui choisit cette histoire. J'aurais pas pu dire, en fait, une histoire sur un garçon qui trouve un pic-bois, ça aurait pas eu la même force.
Non, voilà, non. Exactement. Ouais. Puis alors, il y a un moment donné, celle-ci, elle est très, très courte, mais quand vous leur apprenez à faire une critique... Et là, il y a une petite fille qui écrit un truc du genre par rapport à Saint-Hubert. Alors, si vous aimez le salé et le sucré, faut pas y aller. C'est juste ça, sa critique. Mais c'est génial parce que finalement...
Oh non, c'était pas juste ça, c'était l'intro.
Ah oui, ça, c'était
c'est
l'intro.
C'est sa première page et on veut juste tourner pour les
Oui, honnêtes. C'est ça.
Elle avait été brillante, la gamine avait été brillante. Elle avait un cousin qui a travaillé au Saint-Hubert, qui était un des livreurs, puis sa voiture est tombée en panne. Puis elle a fait toute une page, sauf, vous voyez, même les voitures sont pas bonnes. C'était...
Alors, on salue Saint-Hubert.
Absolument. Mais je vous remercie déjà tous les deux, même si vous restez avec moi pour la seconde partie, ce serait très gentil, ce sera pas long, d'accord, mais vraiment parce que vous me rassurez. Je dois dire aussi qu'on a eu une discussion hors onde avant cette émission-là et moi je dressais un portrait plutôt noir de cette jeune génération qui, à mon sens, ne savait pas ni lire ni écrire et vous me dites non, c'est parce que finalement, on n'a pas de référent. C'est ça le truc. Quoi.
Oui, si au moins on pouvait comparer avec des textes d'il y a 50 ans, puis on pouvait comparer le même âge, même circonstance et tout, mais on n'a rien de ça. Mais je dis encore, si c'était vrai, ça veut dire que les animateurs de radio seraient moins bons, les médecins seraient moins bons. Ça aurait un impact sur toute la société. On verrait une dégradation de toute compétence si l'école faisait moins son boulot. Je ne dis pas qu'il n'y a pas du travail à faire, je crois qu'il y a encore du grand travail à faire. On est loin de ce qu'on pourrait réussir.
Et on a besoin de vous. Marie Lalande et Yves Nadon, heureusement quand même qu'il y a des gens comme vous pour apporter beaucoup de sang neuf dans les écoles. Peut-être pas en âge, mais en expérience. Restez avec nous. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Délivre les... Voyons, plein les oreilles. C'est Clotilde Seuil en votre compagnie sur Canal M avec ses invités, Marie Lalande et Yves Nadon. À tout de suite. Des livres plein les oreilles, seconde partie, et on commence ça en chanson à nous qui aimons tellement lire.
J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. La vie risquerai pas.
Vous l'aimez, Marie Lalandin, cette chanson-là?
J'aime bien Albin Lacimane, oui, particulièrement hein? cette chanson-là.
Oui. Ben oui, qu'évidemment, je vous dédie et que je dédie à tous les auditeurs, lecteurs qui écoutent religieusement l'émission Des livres pleins les oreilles, à laquelle je vous reconvie. Je vous représente Yves Nadon, qui est un enseignant qui n'est pas retraité du tout, qui vient d'ouvrir une maison d'édition de livres pour la jeunesse qui n'ont pas encore été lus chez Vues et Voix, mais il faut que ces livres le soient. Il faut dire que c'est vraiment tout récent.
Oui.
Hein, et ça s'appelle Deux, comme D'EUX. Et puis, Marie Lalande, vous, j'aimerais que vous vous présentiez un peu plus, Marie, parce qu'on vous connaît comme collaboratrice à l'émission Les Voix de Service. Vous m'avez dit, lorsque vous m'avez dit, j'aimerais bien collaborer à votre émission, moi, je voudrais parler d'éducation.
Oui.
Pourquoi vous avez été vous-même enseignante?
Moi, j'ai enseigné toute ma vie. Et puis, les dernières années, les 13, j'enseigne au primaire, par pur plaisir. Et les 13 dernières années, j'étais conseillère pédagogique de français dans une des commissions scolaires sur l'île de Montréal, au primaire aussi. Donc, j'ai travaillé avec les enseignants, la lecture, l'écriture, la communication orale, particulièrement.
OK, c'est pour ça que vous avez rencontré, évidemment, Yves Nadon.
Et c'est pour ça que j'ai rencontré Yves Nadon, parce que c'était vraiment quelqu'un pour moi, un modèle enseignant, puis quelqu'un qui a transformé ma façon de voir l'enseignement de la lecture et de l'écriture.
Vous avez fait partie de ces ateliers dont il parlait tantôt.
Je l'ai lu. J'ai lu Yves et j'ai assisté à des conférences. Et je me souviens une fois... Dans une formation, une conférence, il avait comparé l'apprentissage de la lecture à l'apprentissage de la bicyclette. Et il disait, je comprends pas, quand on apprend la bicyclette, il viendrait jamais l'idée à personne d'apprendre la bicyclette sur une bicyclette stationnaire. Alors, comment ça se fait que dans les classes, on fait pas apprendre à lire aux enfants avec des vrais livres? Pourquoi on travaille seulement avec des collections de lecture? Pourquoi on ne met pas dans les mains des enfants des vrais livres pour qu'ils apprennent la lecture? C'est comme si on leur faisait apprendre la bicyclette sur des bicyclettes stationnaires. Puis ça m'avait tellement touchée. Parce que je me disais, oui, il faut travailler avec les vrais livres, avec les enfants. Voilà.
Est-ce que vous dites la même chose encore souvent?
Oui, c'est une métaphore.
C'est une métaphore.
C'est une belle métaphore.
C'est une métaphore qui traverse les années, je trouve.
Oui. Et donc,
elle est très imagée.
Oui. Et donc, j'ai pris ma retraite. Je suis retraitée depuis 3 ans maintenant. Mais la lecture, l'écriture, le monde des enfants, la pédagogie, ça m'habite toujours.
Je me passais la remarque... il m'est souvent arrivé d'appeler dans des bibliothèques, puis de dire, est-ce que vous avez des clubs de lecture? Est-ce qu'on peut venir faire de la lecture aux enfants, ou même aux ados, ou même aux adultes, ou même... Et je me suis souvent fait dire non.
C'est dommage. Hein?
C'est dommage. Est-ce que vous aussi, vous avez constaté ça? Est-ce que vous avez l'impression qu'il faut aller à la bibliothèque, mais la bibliothèque... Est-ce que la bibliothèque va suffisamment vers le monde pour les faire lire?
Faut voir dans quelle bibliothèque on va.
Okay.
Moi, je suis allée récemment à la bibliothèque Marc Favreau à Montréal.
Oui, c'est la Rosemont, celle qui est...
Tombée par terre. Hein, vraiment, cette bibliothèque-là, le lieu lui-même est magnifique. Mais les activités qu'on y organise sont
beaucoup.
Font en sorte qu'on va vers la bibliothèque et que la bibliothèque vient à nous.
OK, d'accord, c'est ça.
Il y a des périodes d'heure du compte dans les bibliothèques.
Il y en a. OK. Fiou.
Fiou.
Non, mais ça doit vous rassurer un peu quand même, Yves Nadon.
Il faut voir quand même que certaines bibliothèques scolaires existent encore et fonctionnent encore comme on fonctionnait quand j'enseignais, moi, il y a 30 ans.
Ouais.
Ça, c'est un peu navrant, là, mais il y a quand même des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Mm. Particulièrement parce qu'on a engagé davantage de bibliothécaires dans les commissions scolaires.
Oui.
Donc, on a changé, on a essayé de changer des choses.
Yves est réticent. Il est un peu réticent, pourquoi? Ouais. Non,
davantage, c'est vrai, mais quand on passe de 0 à 4...
C'est pas beaucoup, pour une commission scolaire.
Oui, c'est vrai, c'est pas beaucoup. Scolaires, je trouve c'était... les intentions étaient bonnes, les budgets ont pas suivi.
Ce qui est sûr, c'est que les bibliothèques dans les écoles sont en triste état, par contre.
Certaines, oui.
Je ne sais pas, moi, il me semble qu'en ce moment, une salle de classe, ça devrait quasiment ressembler à une bibliothèque. Oui. En tout cas, j'ai les souvenirs de nos salles de classe quand j'étais jeune. Et d'ailleurs, je pense que ces alignements de livres qui nous fascinaient, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fascinant que de voir une bibliothèque? Je veux dire, chaque livre renferme des mystères. Mm-hmm. Et moi, je me souviens, là, quand j'étais petite...
Mais vous êtes chanceuse.
Oui, ben oui, je suis
parce
chanceuse.
Parce que moi, quand j'étais petite, ça ne correspond pas à la classe que j'avais.
Non, pas dans ma classe.
Moi.
Ah non?
Non,
pas dans ma classe.
Pas de livres, que des pupitres fermées, puis...
Ah oui?
Un crucifix.
Puis du silence.
Ouais. Puis du silence, oui.
Ah non. Moi, je me souviens que c'était très, très, très vivant. Alors, il y avait une partie pour les sciences avec deux ou trois bibites. Il y avait une partie, c'est ça, très, très littéraire. Et je pense que c'est de là que j'ai conservé cette idée. Je suis incapable de jeter un livre. Je suis capable de le donner.
Mais pas de le jeter.
Mmh. Ben, de le jeter. Genre, de faire des sacs, puis d'aller porter ça dans... Oui. Vous savez où, là? Ouais. Je suis pas capable. Je suis capable de donner un livre à quelqu'un, puis si l'oublie de me le rendre, c'est pas grave. Pour moi, un livre, il faut que ça circule. Mais d'où je pense à cette idée, et je suis encore devant ce que mes amis appellent ta librairie. Mais j'aime ça. Puis parfois, tout d'un coup, je redécouvre un bouquin. Bon, revenons à la lecture et à l'écriture. Excusez-moi, c'est parce que je m'emballe quand je parle de ça. Moi, la lecture, c'est... Qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question? En fait, c'est parce que j'en ai trop. Vous avez dit à un moment donné une phrase que j'essaie de retrouver, voilà. Savoir lire et écrire, c'est drôlement plus important qu'il y a 50 ans.
Oui.
Pourquoi?
J'ai vu des études, puis je me trompe peut-être sur la date précise, mais par exemple, entre 1994 et 2011, je pense. Mmh. Le 94, je suis certain, je ne suis pas certain du 2011. C'est peut-être moins que ça, c'est peut-être 2005-2004. Il y a eu autant d'inventions humaines que dans toute l'histoire de l'humanité qui a précédé 1994. Ça veut dire que ces enfants-là naissent dans un monde où ils ont vu dans leur vie autant d'inventions, puis personne n'a vu autant d'inventions que ça dans toute leur vie. Et en ce moment, ça roule encore plus vite. Je regarde les téléphones et tout, la technologie, c'est rapide. C'est pas comme quand tu étais au Moyen-Âge et que tu regardais l'église se faire bâtir puis tu héritais des outils de ton père qui avait hérité de son grand-père, de son arrière-grand-père et rien n'avait changé. La vie était d'une
stable.
Une vie dangereuse, remarquez bien, mais une vie stable, mais hyper dangereuse. Ouais. La nôtre est pas très dangereuse, mais très peu stable. Mm-hmm. Et si on ne sait pas lire actuellement, si on ne lit pas et on n'écrit pas, on est... très malléable. Puis, il s'agit juste de regarder ce qui se jase parfois suite à un éditorial dans Le Devoir ou La Presse. Mm-hmm. On regarde les commentaires des gens qui suivent. C'est assez horrible à lire ce peu de réflexion, cette incapacité à accepter que l'autre n'a pas le même avis que toi, mais qu'on peut en débattre, mais qu'on lance des insultes. Mm-hmm. Et on ne débat pas, on donne des opinions. Et je trouve qu'on a à apprendre à mieux lire, à lire de façon profonde et à écrire pour que nos idées... Ce matin, j'étais avec un illustrateur qui s'appelle Stéphane Jorich, grand illustrateur du Québec. Puis Stéphane me disait qu'il trouve que l'écriture est la chose la plus importante. Puis je disais, c'est drôle parce que quand même, comme illustrateur, t'es quelqu'un. Puis il disait, oui, mais c'est l'écriture qui mène. C'est le scénario du film, c'est le texte du livre, c'est le livre. C'est les instructions sur la boîte. Il dit l'écriture. Mm-hmm. Et je trouve qu'on est rendu là où. Puis je regardais mes fils, qui on aurait cru qu'ils écriraient moins qu'à mon époque, mais mon Dieu, mon fils fait des textos. Il ne nous appelle pas au téléphone, il fait des textos. Il faut apprendre à être capable d'être critique. Il faut apprendre à bien exprimer notre pensée, à prendre le point de vue de l'autre, à l'intégrer. Et ça, je trouve, ça doit s'apprendre et ça ne se fait pas tout seul. Mm-hmm. C'est un peu comme la musique ou le tennis. T'as besoin d'un instructeur. Et à notre époque, je regarde juste ce qui se passe aux élections américaines. Pour moi, qui est l'exemple type de pourquoi il faut que les gens soient des lecteurs et des auteurs pour ne pas se laisser manipuler comme ça. Et dans un sens comme dans un autre, on se fait manipuler par des radicaux ailleurs, mais on se fait aussi manipuler par des radicaux ici ou juste certaines radios qu'on a au Québec aussi qui lassent des grossièretés puis les gens l'acceptent sans sans être capable de débattre vraiment. Il faut lire, il faut écrire. C'est hyper important de nos jours.
Marie, vous aimez lire, mm-hmm. vous aimez écrire aussi?
Aussi, oui.
Et vous m'avez dit que, bon, vous, tout à l'heure, vous m'avez parlé de comme un roman, oui. Oui. Yves Nadon, excusez-moi, je vous ai pointé du doigt, ça vous a fait un petit peu peur. c'est une très mauvaise manie que j'ai. Vous, Marie, vous êtes arrivée avec un livre qui n'est oui. pas... Un roman jeunesse.
Non, c'est pas un roman jeunesse.
Mais je voudrais qu'on prenne le temps que vous nous en parliez un peu.
J'aimerais tellement ça. En fait, vous m'avez demandé un livre marquant.
Oui.
Pour moi, le livre marquant, c'est généralement celui que je suis en train de lire. C'est bête, là, mais c'est comme ça. Mais celui-là, et je viens à peine de le terminer, ça s'appelle « Réparer les vivants ». Et c'est l'auteur, c'est Maylis, M-A-Y-L-I-S, de Kerangal. C'est publié chez Gallimard. C'est un tout petit livre et c'est un livre formidable. En fait, c'est un des livres les plus beaux que j'ai lus. Ça se passe en 24 heures. C'est écrit et ça se lit comme d'un seul souffle. Et cet auteur-là écrit des phrases très, très longues parce qu'on est dans l'urgence.
Oui.
En fait, c'est l'histoire d'une transplantation cardiaque.
C'est ça, OK.
Souvent, on ne veut pas brûler un punch puis on n'ose pas dire que tel personnage meurt à la fin. Ici, oui, là, le personnage, oui. il meurt presque, il est en mort cérébrale dès le début
dès
du
le
livre.
Dès le début, c'est ça.
C'est un jeune, 20 ans, qui fait du surf et qui a un accident. Et son cœur va être éventuellement donné.
Oui.
Et pendant ces 24 heures, on suit ce qui arrive au cœur de Simon.
Oui.
On vit avec ses parents, sa mère, son père, qui apprennent cette chose horrible. On est avec les médecins, on est avec l'infirmier qui accompagne les parents et on est aussi avec la personne qui va recevoir ce cœur.
Oui.
C'est vraiment un livre formidable, merveilleusement écrit. Mm-hmm. Si j'osais, je vous en lirais une partie.
Oui, absolument.
Alors, à ce moment-là, le cœur a été...
transplanté déjà.
En fait, on est vers la transplantation.
D'accord.
Le cœur de Simon migrait dans un autre endroit du pays. Ses reins, son foie et ses poumons gagnaient d'autres provinces. Il filait vers d'autres corps. Que subsistera-t-il dans cet éclatement de l'unité de son fils? C'est la mère qui réfléchit. Mmh. Comment raccorder sa mémoire singulière à ce corps diffracté? Qu'en sera-t-il de sa présence, de son reflet sur terre, de son fantôme? Ces questions tournoient autour d'elle comme des cerceaux bouillants. Puis le visage de Simon se forme devant ses yeux, intact et unique. Il est irréductible, c'est lui. Elle ressent un calme profond. La nuit brûle au dehors comme un désert de gypse. C'est beau, c'est tellement beau. Et j'avais choisi d'autres passages, mais vraiment...
Je voudrais qu'on rappelle le titre du livre.
« Réparer les vivants ».
De
Maylis de Kerangal. C'est publié chez Gallimard.
Et ça se retrouve en audio, mais pas par l'USQLA, par l'INCA, à l'INCA.
Mm-hmm.
Hein? Et ça, c'est important de le dire. Et je voudrais, Yves Nadon, avant qu'on se quitte, que vous nous rappeliez que votre livre fétiche, celui que vraiment vous recommandez à tout le monde et qu'on souhaiterait presque que tous les enseignants aient dans leur bibliothèque, c'est Comme un roman de Daniel Pennac.
Oui.
Tout est dit dans ce livre-là. Non.
Mais c'est un livre où Daniel raconte son dilemme d'enseignant parce que ses gamins n'aiment pas lire.
Voilà.
Puis il se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils n'aiment pas lire quand moi j'adore tellement lire? Mmh. Et là, il réfléchit vraiment à les pratiques, les attentes, la société et tout. Puis sans rentrer dans un jargon pédagogique, il est dans un jargon d'amoureux de la lecture. Mmh. Et tout est traité du point de vue d'un amoureux de la lecture. Et comment, parce que Daniel a enseigné jusqu'à l'âge de 50 ans, et comment il va renverser ça dans sa salle de classe quand il va accepter que je vais vous lire. Il va les ramener à l'état de 5 ans, 4 ans quand on lisait. Il va lire à ses ados et paf!
Ah.
Et ça démarre. Et c'est d'une beauté, là. C'est simple et c'est complexe.
Oui. Eh bien, c'est là-dessus qu'on va se quitter, parce que nous, on parle de livres audio avec ça. Donc, nous sommes des gens qui racontent des histoires. Oui. Yves Nadon, merci tellement. Faites-moi une promesse avant qu'on se quitte. C'est que si un jour Daniel Pennac vient à Montréal, vous me le faites savoir.
OK, je promets.
D'accord.
Attention, vous avez dit ça devant beaucoup de témoins.
Tous ceux qui nous écoutent.
Marie Lalande, qui dit moi aussi, je vais être là. Marie Lalande, merci beaucoup. Nous, merci, on va se retrouver aussi à l'émission Les Voix de Service. Merci à vous deux pour ce spécial lecture de Vous êtes déplacés. Yves de Sherbrooke et puis Marie de...
Et merci pour l'invitation.
D'Anjou. D'Anjou. Bon, c'est parfait, je vous en prie, Yves.
Merci.
Je suis ravie. Merci, merci beaucoup.
Merci.
Allez, c'est l'heure de la bande-annonce. De rien, Yves. Allez, on s'embrasse. Hein. On fait ça comme à la maison. Mais oui, mais c'est ça qui est merveilleux. Merci, Marie. Mais non, mais c'est pour ça qu'on vous aime. Elle m'avait dit que vous étiez comme ça, Yves. Mais voilà, je vous adore et je veux... Et on va se revoir à Sherbrooke, moi je vous le dis. Alors, à bientôt. Donc, la semaine prochaine, je voudrais vous présenter l'équipe de libraires complètement fous qui ont décidé de monter à Montréal la première librairie féministe qui s'appelle Le Guélion. Et pour vous la présenter, pour vous présenter en bande, en pré-annonce, cette joyeuse groupe-là, je suis retombée sur un article sorti en 2011, signé José Boileau, dans les pages d'actualité culturelle du Devoir. José Boileau qui écrivait, entre autres, parce que pourquoi ce titre de Le Guélion, pourquoi cette librairie porte-t-elle ce nom-là? Eh bien, beaucoup d'entre vous, j'imagine, l'ignorent. Moi, honnêtement, je l'ignorais. C'est un peu scandaleux, mais maintenant, je connais l'explication, et je vous la donne. Sur le site sisyphe.org, écrit José Boileau, on trouve quelques extraits de Le Guélion, l'ouvrage déroutant, magnifique et imposant que Lucky Bersianic a publié en 1976 et qui n'a plus depuis très longtemps place dans les librairies. Le message pourtant n'en est pas dépassé. Femmes de la Terre, femmes modernes et géniales de la Terre, n'êtes-vous pas fatiguées d'être des égéries? Dit Le Guélion. Louise Bersianic est décédée en 2011. Son décès est passé presque totalement inaperçu. Et José Boileau, dans ce papier-là, qui dit « Son Le Guélion d'une provocante intelligence fut le premier grand ouvrage féministe du Québec. C'est un livre important. » Point. Madame Bersianic qui n'aura pas eu les millions de lectrices d'une Marilyn French, mais au Québec, son impact fut immense. Enfin, on pouvait ajouter une voix d'ici où Marie Cardinal, Benoît Groux, Betty Friedan et d'autres, j'espère que je prononce bien ce dernier nom. Alors la semaine prochaine, je vais donc recevoir de cette librairie Le Guélion, Marie-Ève Blais, Sandrine Bourget-Lapointe, Stéphanie Dufresne, Nicolas Lontin-Martel, Camille Toffoli. C'est possible que je n'en ai que trois sur les cinq, mais c'était important, je pense, de vous présenter cette joyeuse gang de libraires. La librairie féministe Le Guélion, la semaine prochaine, à Des livres plein les oreilles. Ah, Gérard, vous êtes tellement disponible, je vous adore. Gérard Saint-Denis, comment ça va?
Je vais vous dire que j'adore ces femmes qui ont fait notre histoire. Si, moi, j'ai fait beaucoup de généalogie, puis je regarde l'histoire du Québec. N'eût été de ces femmes-là, on n'aurait pas le Québec qu'on a aujourd'hui.
Ah, ben non, c'est vrai. Non,
ça, c'est merveilleux. L'autre chose que je vais vous dire, on va parler de livres de jeunesse. Hein?
Oui, parce que vous savez que toute l'émission a tourné déjà autour de la littérature jeunesse, et vous pourrez entendre ça lorsqu'elle sera diffusée. Mais c'est pour ça qu'il y avait cette petite commande qui vous avait été faite. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez?
Moi, je vous propose de commencer un premier livre qui est dans le qui était au SQLA de Marie Roberge, Dans le nid du faucon. C'est un livre pour des 9 à 12 ans, là.
Okay? Oui.
Et c'est un peu l'histoire des problèmes des gens qui ont des problèmes à l'école, le harcèlement. Et c'est un Indien qui aide un Québécois à sortir de cette situation-là. C'est charmant.
D'accord. C'est bien écrit.
C'est très bien écrit. C'est merveilleux. Ça dure 1h28. C'est fantastique. Et je profite de l'occasion pour dire à nos auditeurs, que les adultes auditeurs, quand ils ont des livres de contes, ils peuvent les mettre sur... les faire entendre dans la maison à des enfants. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Mm-hmm. Parce que le prochain, c'est 15 contes d'Amérique latine.
Mais oui, bien sûr. Quand c'est en audio comme ça, pourquoi pas faire résonner ça dans la maison comme de la musique?
Fantastique.
Mais oui, vous avez raison.
Et 15 contes d'Amérique latine, c'est par Oswaldo Torres.
Mm-hmm.
C'est des contes. Et je pense que les jeunes Québécois vont aimer ça parce que c'est que tu sois de Chine, que tu sois de France ou d'Amérique latine, tu t'émerveilles à des belles choses et c'est ça qu'on raconte. C'est très bien fait. C'est très, très bien fait. C'est très disponible et bien fait. Après ça, j'ai les 7 comportements gagnants des adolescents. Ça, c'est un livre vraiment pour ados. C'est par John Friel, F-R-I-E-L, à l'INCA.
Oui.
Et ce livre-là nous donne aux adolescents des raisons de comprendre leur situation d'adolescent et comment s'émerveiller de ça, s'en sortir, pas se prendre et pas se sentir coupable.
OK, c'est-à-dire que quand ils ont leurs émotions d'adolescent, qu'on a tous connues, non, c'est ça.
Il n'y a rien de mal, au contraire.
Comment vivre avec ça, oui.
C'est ça.
Oui, oui, tout à fait.
Alors, après ça, j'ai un autre livre que je vais vous parler, c'est l'aventure française en Amérique. C'est de l'histoire de 1534 à 1976 au SQLA.
Mm-hmm.
C'est par Gérard Cachat, C-A-C-H-A-T.
Oui.
Et c'est un documentaire, mais qui est bien présenté, qui nous explique l'histoire de façon... Je dirais que c'est un petit peu à la Henri Guillemin.
Ah oui?
C'est-à-dire, c'est raconté. C'est bien. C'est pas des dates, puis il faut que tu apprennes la date.
Non, etc.
C'est pas
un livre
d'histoire. Mais c'est notre histoire qui est racontée. Il s'est bien raconté.
Okay.
En passant, on s'ennuie de notre Guillemin. Hein. Il était tellement formidable, ce bonhomme-là. Pour ceux qui aimaient l'histoire, hein, c'était merveilleux. J'ai attendu deux fois avant Montréal. Deux fois.
Ah oui.
Après ça, je m'en vais avec AVH. AVH publie beaucoup, beaucoup de livres pour les enfants, pour les jeunes.
Oui.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, j'ai pris les histoires inédites du petit Nicolas.
Oh oui.
Et ça, c'est par Sempé. Jean-Jacques Sempé, vous le connaissez.
Mais oui.
C'est un gars merveilleux qui a fait beaucoup de choses. Il y a 8 tomes là-dedans. Et ils sont tous bons. Ils sont tous merveilleux.
Oui.
Ah, c'est fantastique.
Oui, oui, oui. Ben, il y a deux films aussi hein, qui ont été faits autour des histoires du...
Oui.
Autour des histoires du petit Nicolas qui va à l'école avec sa gang.
Oui, c'est ça.
Avec sa gang d'enfants. Ah oui, oui, c'est drôle, avec des parents drôles et tout. Oui, oui, oui.
Oui,
oui,
c'est humoristique.
Oui, oui, oui.
C'est un humoriste.
Ah, oui.
Mais il raconte bien. C'est un bon raconteur.
Et c'est un dessinateur aussi, hein?
Oui, un très, très bon dessinateur.
C'est ça.
Merveilleux. Moi, mon choix, j'ai pris les contes pour enfants de Gabriel Leroy.
Ben oui, bonne idée.
C'est suave, c'est beau, c'est poétique. Et c'est le langage de Gabriel Leroy qui écrit tellement bien. C'est tellement tellement intéressant d'écouter. Surtout quand on l'écoute, c'est encore mieux que de le lire.
Oui.
Je ne sais pas pourquoi, c'est plus poétique. Savez-vous ça? Que la poésie écoutée, c'est mieux que de la lire.
C'est vrai.
Oui.
C'est vrai.
Et que nos auditeurs nous reviennent là-dessus, qu'ils nous en parlent, là. Ceux qui ont déjà lu de la poésie ou qui l'écoutent maintenant,
ouais.
Je suis persuadé qu'ils vont aimer mieux de l'écouter que de la lire.
Mais ça dépend comment elle est lue, à voix haute.
Ah oui.
Par contre, ben, parce qu'il faut que ce soit bien lu quand même.
Maintenant, je parle un peu pour... Je vous reviens à SQLA. Eux autres, ils ont une section pour les 0 à 4 ans.
D'accord.
5 ans à 8 ans, 9 ans à 12 ans.
Mm-hmm.
Et après ça, tous les livres pour la jeunesse. Ils ont toutes ces sections-là, donc c'est facile de choisir ces livres-là. Mais ils en ont beaucoup, 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 beaucoup.
Ça, c'est AVH ou c'est SQLA?
AVH.
Ah, AVH.
C'est AVH.
Et
oui,
voulez-vous
AVH.
Nous rappeler, encore une fois, parce qu'on ne le dit jamais assez souvent, surtout qu'on a des petits problèmes en ce moment, peut-être marqué au moment où l'émission sera diffusée, ce sera sûrement réglé, mais au cas où on ait du mal à écouter ces émissions-là, moment-là. Dites-nous, nous avons 1 minute 30, Gérard, encore, pour finir l'émission. Dites-nous, comment on fait pour s'inscrire sur AVH?
On va sur le site de AVH.
Si on fait AVH,
oui,
on est correct.
Valentin, si on met AVH, on va arriver dessus. On va
d'accord.
arriver sur le site.
D'accord.
Et ça va être marqué « S'inscrire ».
D'accord.
Et là, on remplit un questionnaire et on envoie la copie de son attestation de vision.
D'accord.
C'est une photocopie, c'est vous, on met ça en Word. Là, c'est,
ah oui, oui,
et
oui, oui.
On le met en attaché.
Oui.
On l'envoie. Et 2 semaines après, ils vont vous écrire.
Oui.
Ils vont vous donner un numéro d'enregistrement. Ils allaient commencer à recevoir des livres. Vous avez le droit à 20 livres par 15 jours.
Imaginez. Et c'est téléchargé en combien de temps?
Ah! Ben, le dernier, j'ai téléchargé, madame, un livre qui vient de sortir en 2016.
Bon, ben, c'est parfait.
Je l'ai téléchargé en 3 minutes 30.
Bon, ben, écoutez, Gérard, on va se quitter là-dessus avec cette bonne nouvelle-là. Donc, avh.com, si vous faites ça, vous allez avoir vraiment, c'est facile.
Mais je vais vous poser une question, Pierre. Quels sont les deux noms les plus souvent utilisés pour nommer des rues en France, dans les villes de France? Je vous en donne 3. Jeanne d'Arc, Louis Pasteur ou bien Victor Hugo, lequel qui est un intrus là-dedans?
Je dirais Jeanne d'Arc.
Vous avez raison.
Au revoir, Gérard.
Bye-bye.